Bonjour à tous, je vous salue et je vous souhaite une bonne année 2021 qui s'en vient bientôt. C'est le dernier message de 2020. Je pense qu'on est tous contents de finir cette année qui a été difficile pour toute la planète. Et le message que j'aimerais apporter ce matin, c'est la parabole de l'économe infidèle. Ou du gérant infidèle. Et puis Jésus veut nous enseigner à ses disciples de mettre leurs priorités sur les choses célestes plutôt que de les investir, de s'investir dans des choses terrestres, dans des ambitions terrestres. Et je pensais qu'en commençant l'année, c'était utile, comme une bonne résolution, et puis de refaire une réinitialisation, hein, comme un reset. On peut avoir un téléphone des fois qui se met à mal fonctionner et il faut faire une réinitialisation, le fermer, le repartir à zéro. Un ordinateur aussi quand il se met à mal fonctionner. Et spirituellement aussi, ça peut être nécessaire de se recadrer pour refixer les bonnes priorités. Ils veulent faire ça aussi avec l'économie là, qui s'est arrêtée à cause de la pandémie. Ils appellent ça « the great reset ». C'est une réinitialisation économique pour repartir, réinvestir massivement. Et nous autres, ben, cette parabole-là va parler justement du rapport qu'on a avec l'argent que Dieu nous confie et avec lequel il nous demande d'être fidèles. Juste pour dire que cette parabole-là, elle vient juste après, c'est au chapitre 16, mais ça vient juste après le chapitre 15, où est-ce que Jésus va expliquer, va dire une parabole en trois histoires. C'est la parabole de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue et du fils prodigue aussi, parce que les pharisiens critiquaient Jésus parce qu'il accueillait les gens de mauvaise vie et qu'il voulait s'investir justement dans ces gens-là pour les gagner. Pour le ciel, pour le salut, pour le royaume. Et il se faisait critiquer pour ça. Et il y a donc un lien entre cette parabole-là. On va peut-être le voir plus tard aussi dans le déroulement du message. Et puis, c'est quand même pas une histoire, une parabole évidente à comprendre, mais c'est un message important pour nous. Et j'aimerais ça qu'on débute en priant, en demandant au Seigneur qui ouvre notre intelligence. Prions. Merci Seigneur que tu nous as gardés jusqu'ici en 2020, qu'on puisse présenter, écouter ta parole. On te prie que tu nous donnes de comprendre. Par l'action du Saint-Esprit, on te demande d'agir en nous, de ramollir les partie dure de notre cœur et que ta parole puisse y pénétrer, nous transformer, nous changer pour ta gloire. Transforme-nous, Seigneur. Et on te prie dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Donc, je vous propose qu'on lise le texte et puis qu'on le reprenne tranquillement pour l'expliquer verset par verset. Donc, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe, ou le gérant, dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, ceux qui avaient des dettes, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? »« Sans mesure d'huile, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « 100 mesures de blé, » répondit-il. Il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua la louange, loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, les habitations éternelles au paradis, quand elles viendront à vous manquer. Et celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les pharisiens qui étaient avares écoutaient tout cela et ils se moquaient de lui. On va reprendre tranquillement la parabole. C'est pas nécessairement facile à comprendre. Jésus qui félicite un voleur et ensuite qui nous demande de se faire des amis avec les richesses injustes. Comment est-ce qu'on accorde tout ça avec ce qu'on sait de Jésus, de Dieu dans l'Évangile? On sait qu'il y a plusieurs non-chrétiens qui utilisent cette parabole-là pour blâmer le christianisme, d'avoir des valeurs morales inférieures, déficientes. Apparemment, en l'an 360, l'empereur Julien, appelé Julien l'Apostat, parce qu'il avait délaissé la foi chrétienne, a utilisé ce texte-là pour rejeter le christianisme. Dans les évangiles, il paraît qu'il y a une parabole sur cinq qui parle d'argent, qui touche le sujet un petit peu comme celle-là, le sujet de l'argent. Puis c'est toujours pour dire que l'argent, c'est pas ce qu'on pense que c'est. De ne pas y mettre notre confiance, parce que souvent c'est rassurant d'avoir de l'argent, de ne pas y mettre notre priorité. On peut penser à la parabole du fermier, dont les champs avaient beaucoup rapporté. Et puis, la parabole ici, on va la voir tout à l'heure aussi, mais la parabole ici n'est pas différente. Fait que le sujet de Jésus, c'est justement de nous réveiller, il prêchait, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Il voulait que les gens soient avisés, avertis, se préparent à rencontrer Dieu, à des réalités célestes. Et il voulait, c'était le thème, le but de sa venue. Donc, on va reprendre le texte au verset 1. Là, on voit que l'homme riche dit justement, lui fut dénoncé comme dissipant ses biens, il l'appela. Puis là, je trouve qu'il est quand même très gentil envers lui. Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez fait dans un cas comme ça. Possiblement qu'aujourd'hui, les gens appelleraient la police. C'est du vol, c'est criminel, et puis il prendrait des recours légaux, punitifs, mais là, non, rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Et là, il y a beaucoup de détails que Jésus ne nous dit pas, comment ça se fait qu'il a su, l'économe a réagi pour se défendre, c'était quoi ses excuses. Il saute ces détails-là, puis il dit simplement, là, rends compte de ton administration. Et puis, c'est un thème qui revient souvent où est-ce que Jésus dit, il va y avoir un temps où est-ce qu'on aura à rendre des comptes. Un jour de jugement sur notre comportement, sur notre fidélité. On aura tous à rendre des comptes à Dieu. Et là, l'économe, Jésus, il va parler, il y a beaucoup de détails qui sautent, mais il va nous parler de son discours intérieur. qu'est-ce qu'il a pensé pour analyser un petit peu sa manière de réfléchir. Puis il a fait ça avec le fermier, dont les champs avaient beaucoup rapporté, que je vous avais parlé. Il raisonnait en lui-même, disant, « Qu'est-ce que je ferai? J'ai pas assez de place pour mettre toute ma récolte. » Le fils prodigue aussi, il est rentré en lui-même, puis il dit, « Mais là, combien d'ouvriers de mon père ont du pain à manger à satiété, puis moi ici, je meurs de faim. » Le juge inique, il est rentré, il s'est dit en lui-même, « Mais là, que même si je crains pas Dieu, je vais lui rendre justice à cette veuve-là, pour pas qu'elle me casse la tête. » Fait que c'était le discours intérieur, les pensées du cœur qui intéressaient Jésus, qui voulait nous enseigner ici, à en tirer des leçons. Ici, la leçon, c'est que le gérant se met en mode solution, il est prévoyant face au danger qui va venir, et Jésus admire cette attitude-là. Il voudrait que ses disciples aient aussi cette attitude-là. Fait que là, il y a un éclat de génie. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. C'est-à-dire pour que je trouve un autre job, un autre emploi ailleurs. Et fait que là, il fait venir, en faisant venir chacun des débiteurs de son maître. Fait que là, il y avait une longue filet de personnes. Et puis, il prend au premier, OK, 100 mesures d'huile, il réduit ça de moitié à 50. C'était quand même pas une petite somme, là. C'est un an et demi de travail d'un ouvrier, là, la valeur de 50 mesures d'huile. Et puis, on voit ici au verset 6, il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite. » OK, il avait le sentiment d'urgence, « J'ai pas beaucoup de temps là, pour faire... appliquer ma stratégie, je ne veux pas être surpris en flagrant délit de vol, ça va faire avorter mon plan de secours. » Là, il y avait quelque chose de clandestin, d'illégal qui se passait, puis il fallait que ça se passe vite. Le prochain aussi, 100 mesures de blé, réduit à 80, puis ça aussi, c'était un an et demi de travail d'un ouvrier. Fait que c'était pas rien. Et là, on a la parole, la réaction de Jésus. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Il dit pas de ce qu'il avait agi de manière infidèle ou malhonnête. Ça, non. Il l'avait déjà confronté sur ce fait-là. Il approuvait pas là, son vol. Mais ici, c'était sur le fait qu'il agissait de manière avisée, prudente. Et puis la prudence pour Jésus, c'est important. Ailleurs, il en a parlé, tu sais, soyez prudents comme des serpents, sains comme des colombes. Mais la prudence est importante. Et là, il a pu voir que le schnappant, il avait fait un coup de maître. C'est un peu comme des voleurs qu'on voit des fois dans des films qui veulent voler un diamant. Et puis là, qui déjoue tous les systèmes de sécurité, puis que là, tu regardes ça, tu te dis, ouais, c'était quand même bien songé, c'était quand même brillant. Ou bien un jeune hacker, là, sur l'informatique de 15 ans, là, le petit ado, qui rentre dans les systèmes de informatique de la Défense nationale ou d'une banque, et puis qui déjoue tout ce qu'une armée de programmeurs avait fait pour les protéger. Fait qu'on peut dire que, ouais, c'est bien songé. Mais là, en quoi est-ce que le fait d'être avisé, d'être prévoyant, d'être intelligent est pour Jésus important? Et puis, là, ce qu'il s'aperçoit, c'est le maître, là, il apprécie le fait de prévoir pour son avenir. Il n'a pas nié. Il n'a pas ignoré le danger, il s'est mis en mode solution, puis il a pris des mesures concrètes, pratiques et actives, puis il était motivé pour se protéger. Et c'est cette leçon-là d'intelligence que Jésus veut transposer et aimerait voir chez ses disciples. On va voir la suite. Donc, il loua l'économe infidèle qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés. Puis on voit ici qu'il fait une comparaison, un contraste entre les enfants de ce siècle, les non-croyants, les enfants du monde et les gens du monde, qui sont plus avisés comparativement, en comparaison à l'égard de leurs semblables, que ne le sont les enfants de lumière, c'est-à-dire les disciples de Jésus, les croyants. Et là, ce qu'ils voient, c'est que, c'est ça, le contraste, c'est de se dire, un peu comme dans la parabole du juge inique, bien que je ne crains pas Dieu, je vais lui faire justice. Et Jésus qui dit, et si lui est comme ça, combien plus Dieu ne fera-t-il pas justice? Si le méchant juge, justement, fait justice, combien plus Dieu? Et si le méchant économe infidèle sait se sortir du trouble et être prudent, combien plus les disciples de Jésus devraient être aussi plus prudents? La qualité qu'il avait remarquée chez l'économe infidèle, c'était de se mettre en mode solution, de trouver, de ne pas nier. Parce que c'est déjà mal d'être un criminel. Mais il y a pire que d'être un criminel, c'est d'être un criminel imbécile ou insouciant, en même temps que d'être criminel. Et là, ici, au moins, il n'était pas un imbécile, il a pu sortir du trouble. Et cette intelligence-là d'être prévoyant, Jésus voudrait l'avoir chez ses disciples, mais trop souvent, il les trouve insouciants. Et puis, le gérant, lui, n'était pas en déni, il n'a pas ignoré qu'il y avait un danger de perdre son emploi, mais les disciples de Jésus, c'est comme s'ils sont en déni, eux autres, sur l'idée que, écoute, toutes les richesses, les ressources qui sont à ma disposition ne sont pas pour moi, mais sont à être utilisées pour gagner un profit, un avantage dans l'au-delà, après la mort, dans la vie à venir, dans la vie céleste. Et ils sont en déni du fait qu'ils auront à rendre des comptes sur la manière dont ils auront géré ces ressources-là. Et malheureusement, les enfants de lumière sont insouciants. Ils ne réalisent pas qu'ils vont mourir, qu'ils auront à rendre des comptes. Et puis, ils vont se servir eux-mêmes plutôt que d'utiliser, c'est-à-dire leur propre bénéfice immédiat, plutôt que d'utiliser ces richesses temporaires-là qu'ils vont perdre de toute façon pour leur bénéfice éternel. Et c'est là que le contraste, la logique prend son sens. Continuons au verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils, les amis, vous reçoivent dans les tabernacles ou les habitations éternelles, quand elles viendront à vous manquer. Fait que Jésus n'est pas en train de demander à ses disciples de voler des richesses injustes pour se faire des amis, un peu comme Guillaume Tell, là, qui faisait peut-être du blanchiment d'argent ou pour recycler puis se faire des amis avec ce qu'il avait volé, le recel. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. C'est quoi les richesses injustes? Et on le voit ici avec le verset 11 et 12 qui vient clarifier un peu parce que c'est deux versets parallèles qui s'expliquent l'un l'autre. Jésus se répète et donne des explications dans la répétition. Au verset 11, c'est donc « Vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes qui vous confiera les véritables. » Et si vous n'avez pas été fidèle, voyez comment ils se répètent ces deux versets parallèles, dans ce qui est à autrui, c'est l'équivalent de richesse injuste. Et qu'est-ce qu'il entend donc par richesse injuste? C'est simplement ce qui n'est pas à nous, ce qui appartient à autrui, c'est l'argent dont je dispose, le temps dont j'ai, mes ressources, ma santé, ma vie, mon corps, mes bras, mes jambes, mon intelligence, mes dons, la vie qui m'est prêtée, tout ça, ça ne m'appartient pas. Je peux l'utiliser pour moi comme si c'était à moi, là, les richesses deviennent injustes. Parce que ça appartient, l'air que je respire est emprunté, ma vie m'est prêtée, mon compte de banque peut m'être redemandé demain. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par « faites-vous des amis avec les richesses injustes » c'est que ces choses-là qui nous sont confiées, qui ne nous appartiennent pas, Dieu nous demande de les gérer comme un intendant, un gestionnaire, un gérant, d'une manière fidèle pour tirer un avantage éternel pour son royaume, pour la gloire de Dieu. Et, bon, ça semble compliqué, mais je pense que ce n'est pas tellement. Puis je pense qu'on en a, on connaît des gens, même dans notre Église, qui sont des personnes consacrées, avisées, prudentes, sages, prévoyantes, qui utilisent justement leur vie, leur temps, leurs ressources pour investir stratégiquement pour le royaume de Dieu, qui ne s'illusionnent pas là, que ça leur appartient. Je prends le cas d'enseignants d'école du dimanche qui se dévouent puis qui se donnent régulièrement, des fois année après année, dans l'espoir que la parole de Dieu qui est enseignée va porter des fruits peut-être d'âmes converties. Puis il y en a des jeunes qui se convertissent à l'école du dimanche. Il y en a d'autres à l'église qui vont faire du ménage. Pas pour la paye, pas pour le fun de passer la balayeuse. C'est parce qu'ils voient que si le bâtiment est propre, si l'équipe de son, si ça marche bien, que ça va apporter, ça va être pour le bénéfice de l'Évangile, la transmission de la bonne nouvelle, l'encouragement des âmes. Et toutes ces produits-là vont être à l'avantage de Dieu, du royaume, vont avoir des retombées éternelles. Ça dit dans Hébreux 6, 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Dieu le voit, Dieu le sait, c'est une histoire de cœur. Même ceux qui s'investissent dans des camps, je pense, les camps qui vont peut-être recommencer cet été si la pandémie se calme, là, les vaccins fonctionnent. Il y en a qui travaillent dans la cuisine, dans les camps. C'est pas le fun, non, mais ils voient, ils comprennent. Là. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui viennent. Je pense à la Villa du Carmel et puis il y a d'autres camps aussi. Mais où est-ce que ces non-chrétiens viennent et entendent jour après jour, matin, soir, la parole de Dieu et que ça peut justement porter des fruits pour l'éternité. Ils sont ambitieux d'avoir des profits, oui. Ils sont à l'argent céleste par contre. Et ils utilisent les ressources qui leur sont prêtées. C'est pas pour eux. C'est pour gagner des dividendes éternels. Les missionnaires aussi que l'Église soutient, en passant, s'il y en a qui veulent s'impliquer dans le comité missionnaire, qui aimeraient encourager ces missionnaires-là, vous êtes les bienvenus. Mais les missionnaires, donc, qui donnent leur vie, qui s'investissent, il y en a qui sont encore là, tu sais, je pense au Grégoire, plusieurs là, qui sont encore là, dans la pandémie, sur le champ de mission, et puis qui profitent de ces occasions-là pour être des témoins. Donc, on a plusieurs modèles à l'Église même, de gens avisés et prévoyants, et qui s'investissent stratégiquement pour le royaume de Dieu. Et puis le Seigneur nous a donné une façon un peu de transférer l'argent qu'on a ici, qui ne nous appartient pas, qui est temporaire, qu'on devra tout remettre un jour. Comment le transférer au ciel? Mais ça fait peur, un petit peu, ces choses-là. Je vais lire quand même le texte, là. Jésus qui dit dans Luc 12, 31, « Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc, il montre là où est-ce qu'on devrait garder nos yeux, notre priorité. « Ne crains point, petit troupeau, que parce que oui, ça peut faire peur. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône, en au monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Hein, tu le vends, tu le donnes, tu le retrouves dans les cieux. Où le voleur n'approche point, où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est sûr, la première objection que j'entends, qui me vient à l'esprit face à ce passage-là, c'est que c'est pas réaliste. On vit au Québec, on a besoin d'un manteau, de logement, de chaleur, de nourriture pour survivre, mais je pense que Jésus était bien conscient qu'on doit en garder pour soi, mais puis l'enseignant d'école du dimanche a besoin de s'habiller, a besoin de manger, a besoin d'une auto peut-être pour venir à l'église ou dans un camp. Mais sa priorité, ce n'est pas pour ses besoins à lui ou à elle. Elle veut simplement avoir ce qu'il faut pour continuer à fonctionner, à s'investir, à servir pour le royaume de Dieu. Je pense que la réponse à cette objection-là, c'est dans l'attitude du cœur, de prioriser le royaume de Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas une maison. Il nous demande notre cœur. Parce qu'il sait que s'il y a notre cœur, il va avoir tout le reste. Incluant notre portefeuille. Je ne sais pas si c'est nécessaire d'en demander plus. Il ne demande pas à tout le monde de tout vendre. Il a demandé ça à une personne qu'on a vue. C'était le jeune homme riche qui avait justement un problème d'attachement à l'argent. Je ne sais pas si vous avez entendu l'anecdote, le type, c'était son baptême, puis on baptise par immersion. Et puis, en descendant dans le bassin d'eau, il dit à celui qui le baptisait, « Oh, j'ai oublié mon portefeuille! » Et puis, il avait dans ses poches son portefeuille, puis là, le gars qui baptisait, il a fait comme la remarque, en joke, intelligente, de dire, « Non, non, il a besoin lui aussi de se faire baptiser. » Il a besoin, lui aussi, d'être consacré puis d'appartenir au Seigneur. Il y avait Jim Elliot qui avait dit, c'était un missionnaire en Équateur, qui avait donné sa vie, qui était mort avec cinq autres. Il était cinq en tout, cinq jeunes. Mais il avait écrit, on le voit dans ses notes, « Il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut garder. » Afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre au ciel. Il a perdu, Jim, ce qu'il de toute façon ne pouvait pas garder. Il a perdu son corps, sa vie, mais il ne pouvait pas la garder de toute façon. Afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. C'est sûr qu'aux yeux des enfants du monde, les non-croyants, ce genre de comportement-là, c'est excessif, c'est capoté, c'est de la pure folie. Pour eux autres, une goutte d'obéissance pour la gloire de Dieu, c'est déjà du fanatisme. Même Judas, il n'avait pas pu se retenir de protester quand il a vu Marie verser son flacon de nard pur de grande valeur sur la tête de Jésus. Puis là, il avait dit, à quoi bon cette perte? Jésus, c'était pas important. C'était une perte. Mais pour Jésus, le cœur de Marie était à la bonne place. Il a trouvé ça beau. Puis c'était pas perdu. Puis il a dit, à chaque fois que la bonne nouvelle va être annoncée. Puis c'est vrai, on le retrouve dans les évangiles, la bonne nouvelle. On va parler de ce qu'elle a fait pour moi. Fait qu'il nous demande ce matin, est-ce que mon cœur, ton cœur, est à la bonne place? Parce que la solution, c'est au niveau du cœur. On va continuer. Au verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Et puis, Souvent, quand on pense aux choses du ciel, je pense qu'il faut penser en termes de petites choses et non pas de grandes choses. Des fois, on a envie, ceux qui ont des grands dons, même des dons miraculeux qu'on aimerait avoir. Mais c'est comme si Jésus dit non, 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 focalise pas sur ça, là. La vraie game, là, c'est la façon que tu vas consacrer tes ressources, tes talents ordinaires dans les petites choses pour être fidèle. Comment tu vas consacrer tes pensées, ton temps, tes yeux. La fidélité dans les petites choses est une grande chose. Qu'est-ce que je me permets de penser dans ma tête, dans mon cœur, les secrets, dans le secret de mon cœur, les sortes de pensées de jugement, de jalousie que je peux avoir envers d'autres. Ça, c'est une petite chose. Là où la fidélité s'observe. Est-ce que je me dis non, non, c'est pas correct, Seigneur, pardonne-moi de penser comme ça. Ça, ça t'honore pas. Puis de se repentir de ces pensées-là. Qu'est-ce que je fais quand personne me voit? Qu'est-ce que je regarde à l'ordi quand je suis tout seul? C'est là qu'on peut voir si on est fidèle dans les moindres choses. Et concernant là, les choses injustes, celui qui est injuste dans les moindres choses, c'est de s'accaparer justement ce qui nous est prêté en tant que gestionnaire pour le gérer pour Dieu. On se l'accapare pour nous, on est injuste dans les moindres choses. Puis on pourrait parler même du respect des règles de confinement, des règles sanitaires. C'est un bon test, ça, de fidélité au Seigneur, dans les petites choses, quand les gens ne nous voient pas. Tous les petits incidents de la vie, c'est comme des examens temporaires en vue de notre classification pour la vie éternelle qui s'en vient. Être fidèle dans les moindres choses. Verset 11. Comme je disais, il y avait un parallèle ici entre le verset 11 et 12. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, et là il parle donc des richesses injustes, c'est pas là, le fait que c'est matériel, que c'est impur, parce que c'est pas spirituel. Non, non, les choses pratiques, concrètes, matérielles, sont pas impures. Ce qui fait qu'elles deviennent impures, c'est si je les approprie pour mon propre bénéfice, alors qu'elles ne m'appartiennent pas, elles me sont prêtées pour que je les gère pour les intérêts du Seigneur. Là, elles deviennent injustes. Qui vous confiera les véritables? C'est quoi les véritables? Les vraies richesses, ce serait quoi? Parce que là, il dit, si des véritables, ça veut dire que les richesses temporaires d'ici-bas, c'est pas de la vraie richesse. C'est comme l'argent de Monopoly. Ça marche pendant la partie, là, mais à la fin de la partie, on remet tout ça, la game est finie, on remet ça dans la banque. Mais il y a des véritables, celles qui vont durer, ce serait quoi? Ces richesses véritables-là dont il parle, Jésus. Je pense que ça peut être comme des couronnes de gloire, des récompenses. T'sais, grande sera votre récompense. Quand on dira des mauvaises choses envers nous, qu'on sera persécuté, qu'on va souffrir pour son nom, grande sera votre récompense, que Jésus dit. Paul disait, est-ce que vous n'êtes pas vous, les chrétiens qui s'étaient convertis, ma couronne de gloire devant le Seigneur Jésus? Et donc, c'est des richesses véritables, c'est nos frères, nos sœurs qu'on aurait aidés à recevoir le salut. Puis la richesse véritable aussi, c'est Jésus lui-même, la perle de grand prix. Le trésor enfoui dans un champ, qu'une personne achète le champ avant tout ce qu'il possède pour avoir cette véritable richesse-là. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, donc ce qui nous est donné pour gérer, qui vous donnera ce qui est à vous, ce qu'on aura vraiment éternellement au ciel. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Et puis, il nous explique des vérités difficiles et puis projette de la lumière dans notre cœur sur les compromis qu'on essaye de faire, d'aimer deux maîtres. Il dit, tu ne peux pas faire ça. Et même, tu vas glisser dans un adultère spirituel. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'était le dieu de l'argent. Si tu t'appropries justement pour ton profit personnel ce qui est à autrui, ce qui est au Seigneur, qui nous a demandé de gérer pour lui. Fait que c'est un gros reset économique, spirituel, qui nous demande. Il y a ce verset-là que j'aimerais vous partager, 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Puis dans l'Église, on a parlé souvent des chrétiens qui sont dans un camp de réfugiés en Tanzanie, Kouankan 2. Jean-Marc Bridgman nous a parlé des chrétiens persécutés, de l'Église persécutée, puis il y a des organismes qui s'occupent de leur venir en aide. Donc, ils sont comme tout près d'un coup de chèque, puis on les a aidés déjà. Je pense aussi à la guerre au Yémen, puis les Nations Unies disent que c'est une tragédie humanitaire, peut-être la pire depuis longtemps, là, que des gens vont mourir. C'est des musulmans, mais c'est dans un sens, c'est des frères aussi dans la... Humainement, là, c'est des humains comme nous, là, les Rohingyas aussi, qui sont envoyés dans une petite île là, au Sri Lanka, là, pour des réfugiés, c'est tous des gens donc qui sont dans pleine crise, détresse, là, auxquels on ne doit pas fermer notre cœur par amour de l'argent ou en s'accaparant des biens que le Seigneur nous demande de gérer. J'ai fait un petit tableau ici pour résumer un petit peu, là, parce que c'était une parabole difficile. Juste pour reprendre, là. Donc, dans la parabole de l'économe infidèle, là, on a que ça lui fut dénoncé comme dissipant ses biens, au verset 1. Et qu'est-ce que ça veut dire, là? C'est de prendre les biens pour nous, le parallèle, comment l'appliquer pour nous, c'est de prendre les biens que Dieu nous confie, les utiliser pour notre profit personnel et non pour son royaume. C'est ça, dissiper les biens. Rends compte de ton administration, l'équivalent pour le disciple, c'est le passage qui dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » On aura tous à rendre compte de notre administration. Je continue, verset 4, qui me reçoivent dans leur maison. Il y avait lui-même, Jésus expliqué en disant que ces amis-là nous reçoivent dans des tabernacles ou des habitations éternelles au paradis. Excusez, le verset 9, se faire des amis en leur rendant des faveurs par les richesses injustes. Là, c'est l'équivalent, ce qu'il nous demande, c'est d'être prévoyant, de penser à l'au-delà, à l'avenir, en investissant pour le salut des gens qui seront reconnaissants au paradis. Je continue au verset 10. Dans la parabole, on a celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. Et ce qu'il nous demande pour le disciple, c'est d'être fidèle dans la gestion des biens terrestres qui ne nous appartiennent pas. Que si on fait ça, nous le serons aussi au ciel avec les biens célestes permanents qui vont nous appartenir. Il parle au verset 11 des richesses injustes, c'est ce qui appartient à autrui, donc c'est l'argent qu'on a, le temps qu'on a, notre corps, notre santé, tout ça qui nous sont confiés pour qu'on en soit les gestionnaires, pas les propriétaires, mais les gestionnaires. Et les gestionnaires vont les gérer pour le bien du vrai propriétaire. Et finalement, les richesses véritables, c'est les couronnes, les récompenses. C'est ça le verset que je voulais vous partager, 1 Thessaloniciens 2, 19. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Sa couronne, c'était justement ces chrétiens-là, les Thessaloniciens qui sont venus au Seigneur par le travail que Paul a contribué à faire pour les aider dans leur conversion. Donc, ça résume un petit peu là, l'équivalent ou l'application qu'on peut en tirer. Et je trouve qu'il y a un passage qui résume bien cette leçon-là de s'investir pour l'au-delà. C'est dans Marc 8, verset 34. Et c'est le message radical de Jésus qui nous demande quelque chose d'entier, profond. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il ne leur crée pas d'illusions, il leur dit la vérité. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a juste Dieu qui pourrait demander ça. De façon légitime, d'en demander autant, de donner sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Fait que je trouve que ça résume bien la pensée de consécration personnelle, de ne pas vivre pour soi-même. Et c'est sûr que ça soulève la question, est-ce que j'ai renoncé à moi-même? Et voilà, on accepte le Seigneur sous le coup de l'émotion, mais on ne renonce pas à nous-mêmes. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. C'est un scandale, ça, pour le non-croyant. Renoncer à soi-même, à ses droits, jamais de la vie. Est-ce que j'ai accepté de perdre ma vie, celui qui perdra sa vie à cause de moi? Est-ce que je poursuis, que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Est-ce que je poursuis encore le monde, les possessions comme un but en soi? Et c'est sûr, comme je disais, les non-chrétiens ne peuvent pas comprendre ça, ne peuvent pas accepter, même ils sont révoltés par ces idées-là. Puis j'avais entendu, tu sais, vous les chrétiens, vous reniez la vie ici sur la terre pour espérer vivre dans un autre monde imaginaire. Puis que personne n'est revenu pour le savoir, on ne peut pas le savoir. Puis vous les chrétiens, vous fuyez la vie, là, le moment présent, pour espérer un monde futur imaginaire. Et puis je trouvais qu'il y avait un auteur, Nietzsche, Frédéric Nietzsche, qui exprimait bien, puis c'est l'esprit aussi du nouvel athéisme, qui résume bien l'instinct naturel du monde. Puis j'en ai mis un extrait ici, juste pour qu'on en soit conscient, puis qu'on puisse répondre à ces objections-là un peu mieux. C'est dans son essai d'autocritique, dans le livre « La naissance de la tragédie » qui est écrit en 1872. Puis regardez ce qu'il écrit. Ça ne paraît pas qu'il est le fils d'un pasteur, hein. C'est un pasteur méthodiste, je pense, fidèle. Nietzsche dit « Le christianisme fut dès l'origine essentiellement et radicalement satiété et dégoût de la vie. » C'est satiété, c'est quand t'en veux plus. Dégoût de la vie pour la vie, bon, soi-disant pour une meilleure vie. Et ce dégoût de la vie-là se dissimule, se déguise seulement sous le travesti de la foi, comme une mascarade, un déguisement de la foi, ça paraît bien. La foi en une autre vie, la vie future, en une vie meilleure. Et là, il dit, c'est la haine du monde qu'on devrait, sous-entendu, aimer. C'est le monde qu'on a, dans lequel on vit. L'anathème aux passions. Les passions naturelles qu'on a, on est faites de passions, d'instincts, de pulsions, la peur de la beauté et de la volupté ou de la sensualité. La foi en un au-delà, futur, inventé, pour mieux dénigrer le présent. Tu veux tellement vivre là, pour le futur là, que tu oublies le moment présent. C'est ça qui nous critique. Au fond, le christianisme, c'est un désir de néant, de mort. C'est sévère. Il écrit des choses très sévères contre le christianisme. Puis comment est-ce qu'on répond à ça? Nietzsche affirme toutes ces choses-là. Je dirais, comment tu peux être sûr que Jésus a inventé un futur, un au-delà futur? As-tu plus de connaissances que Jésus? Jésus pouvait le savoir parce qu'il venait d'en haut, de cet au-delà-là. Puis il l'a bien démontré qu'il venait d'en haut par les miracles qu'il a fait. Toi, Nietzsche, as-tu fait des miracles ou as-tu validé justement ton intuition que c'est tout inventé? Puis la travestie de la foi? Comment tu sais, toi? Comment tu sais plus que Jésus qui, lui, a démontré sa crédibilité? Parce que s'il y a vraiment une vie future, un royaume de Dieu que Jésus a annoncé, est-ce que tu peux me blâmer, moi, de le rechercher puis de me préparer pour ça? C'est comme, est-ce qu'on peut blâmer le prisonnier qui creuse un tunnel pour s'enfuir de la prison? Parce qu'il sait qu'il y a un autre monde en dehors, au-delà de la prison. Oui, c'est une pensée de fuite du moment présent, parce qu'il y a quelque chose qui espère. Mais c'est intelligent, parce que c'est bien ancré dans la réalité. Fait que s'il y a un autre monde, là, justement, est-ce que ceux qui ne veulent vivre que dans ce monde-ci ne sont pas eux autres en fuite face à la réalité de l'autre monde? C'est toi qui es en fuite. Parce que de toute façon, là, tu bâtis un monde ici là, de beauté, de volupté, de sexualité, puis de surhomme, puis de... Il y avait tout un système là, de pensée. Mais là, tu vois tout, ça va tout partir en fumée, ça, cette beauté-là, ton intelligence. Il est fini comme un fou, dans un aliéné, un fou braque dans les derniers 13 ans de sa vie. C'est pas du néant, ça. Tu vas tout perdre de toute façon si tu bâtis juste pour cette vie-ci. De toute manière, comme chrétien aussi, je cherche pas à fuir le monde présent. Je m'investis dans le monde en aimant mon prochain, en voulant servir Dieu de façon honnête. Je m'investis dans le monde pour que ça me rapporte des fruits. Dans le futur, je suis pas désengagé face à ce monde-là. Fait que si on a un néant, un vide de sens. Je pense que c'est ceux qui cherchent à s'investir dans la vie présente quand on sait que ça finit par un cul-de-sac, le cul-de-sac de la mort. C'est pour ça que Jésus, justement, dans cette... directement au chapitre 16, suite à la parabole de l'économe infidèle, il va raconter la parabole de Lazare et le mauvais riche. Pour justement leur montrer que la vie, là, t'as beau être riche, t'as beau réussir, mais c'est un non-sens parce que tu vas tout perdre. Ça va tout finir. Et si on le regarde rapidement, là, la parabole de Lazare et du mauvais riche, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Alors, lui, il avait de la beauté, de la volupté puis de la sensualité. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Lazare, c'est un diminutif de Éléazar, qui veut dire « mon secours est en Dieu ». Il ne pouvait pas être dans les hommes, son secours. Il devait seulement être en Dieu. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Puis même on voit dans l'au-delà qu'il était dans un lieu de tourment effroyable, que Jésus se sent obligé de nous aviser, de nous avertir, que si c'est un cul-de-sac dans cette vie, il y en aura une vie future aussi pour celui qui qui est sans intelligence, pense, face à la vie actuelle qui va se terminer par la mort. C'est ça, à quoi ça sert la vie si demain tu vas quitter tout ce que tu aimes, tout ce que tu as bâti, tout ce que tu as aimé, tout ce pourquoi tu t'es fatigué à travailler, toutes tes réalisations. Comme disait l'Ecclésiaste dans la Bible, vanité des vanités, tout est vanité poursuite devant. À quoi ça sert? C'est ça le nihilisme, le vide de sens. On l'a ici-bas sur la terre si on n'a pas d'espoir dans l'au-delà. Donc, juste pour résumer ici, là où se situe là, la parabole du gérant infidèle, on a au chapitre 15 la parabole de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue et du fils perdu qui était provoqué comme histoire là, parce que les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Qu'est-ce que Jésus faisait? Il s'investissait justement pour le royaume de Dieu, pour l'au-delà, pour ses âmes. Il se faisait des amis avec les richesses injustes qui lui appartenaient pas, on pourrait dire. Ses dons, ses talents, son temps, sa vie a été dépensée pour inviter les gens à se repentir et à se préparer pour le royaume de Dieu. Et eux autres le critiquaient pour ça. Puis c'est pour ça qu'au chapitre 16, il fait la réplique du gérant infidèle d'utiliser nos ressources temporaires pour le salut des âmes et le royaume de Dieu. Et à la suite du chapitre 16, dans l'histoire de Lazare et du mauvais riche, là où est-ce qu'il y avait ce riche-là qui menait joyeuse et brillante vie, il conclut que les deux vont mourir et les deux mêmes vont avoir une vie dans l'au-delà, une de souffrance et l'autre de félicité, fait que ça leur a valu la peine justement pour Lazare de trouver son secours en Dieu, de placer son secours en Dieu. Fait que si on revient juste à la suite de la parabole de l'économe infidèle au verset 14, et j'aimerais qu'on dernier point à finir avec ça, verset 14, les pharisiens qui étaient avares. Ça va être de définir un peu c'est quoi être avare. Quand est-ce que je deviens avare? À partir de quand je suis avare? Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. » Donc l'avarice est un problème du cœur. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Et je pense que on est lié, on est attaché à l'amour de ces biens-là. Il y en a qui usent de violence, qui se désengagent de tout ça, qui veulent justement investir pour le royaume de Dieu, s'investir, se donner, se consacrer à ça. Fait que c'est ça, je viens à la question, là, c'est quoi être avare? Ou d'autres mots dans la Bible, c'est cupide, aimer l'argent. Puis nous, on vit dans une société super riche, dans le fond, peut-être pas aussi riche que ça, mais dans toute l'histoire de l'humanité, je pense qu'il n'y a pas eu de société plus riche que la nôtre. Pour nous autres, c'est normal d'avoir de l'argent puis de ne pas se soucier de quoi on va manger, la majorité, mettons. Puis s'il vient une pandémie sur notre petit pays du Canada avec 33 millions de personnes, on est capable de dépenser 100 milliards de dollars pour se sortir du problème. Les hôpitaux sont gratuits, les vaccins sont gratuits, l'aide sociale est gratuite, puis même les plus pauvres, je pense, arrivent à se payer le téléphone puis Internet, la télé puis Internet. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement, nous autres, d'argent, relativement parlant, que c'est difficile peut-être pour nous de savoir c'est quoi un vrai bon rapport avec l'argent. Qu'il y en a qui usent de violence, justement, de se détacher de ces chaînes-là, de mammon. Et pour répondre à la question, là, c'est quoi être avare, j'aimerais ça qu'on regarde rapidement là, la parabole que j'ai mentionnée quelques fois, là, celle du fermier. qui est courte, là, mais qui parle de ce sujet-là, dans Luc 12. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Bon, il va donner un exemple concernant l'avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » C'est pas très criminel et méchant, là. Fais juste profiter de son travail. C'est quoi le problème? Mais Dieu lui dit insensé. Juste en passant aussi, le mauvais riche dans la parabole de Lazare et du mauvais riche, c'était pas un criminel non plus. C'était peut-être même un pharisien. L'histoire le dit pas, mais Jésus la raconte aux pharisiens en pensant bien qu'elle pouvait s'appliquer à eux. Tout ce qu'il faisait, c'est de mener joyeuse et brillante vie. C'était pas un criminel non plus. Le problème, Dieu lui dit insensé, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Fait que là, il dit, « T'oublies quelque chose d'évident, c'est la mort. » Lazare mourut, le riche mourut, et il n'y a pas de sens à la vie présente, sinon un sens inventé, illusoire. Ça, c'est l'illusion. C'est le sens qu'on s'invente à donner à la vie, s'il n'y a pas d'au-delà. Sans Dieu. Ton âme te sera redemandée. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Et c'est ça l'avarice. De s'approprier les richesses. Quand je m'approprie les richesses qui ne m'appartiennent pas, qui sont à autrui, et je m'illusionne qu'elles sont à moi, et pour moi, je suis avare. J'aime l'argent, qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et peut-être qu'en disant ça, si on réalise logiquement que ouais, c'est vrai, puis même en temps de pandémie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut. On ne sait pas si on va se rendre au mois de janvier. C'est pas ce qui nous pend au bout du nez. La raison nous dit ça, que ça a bien de l'allure, mais peut-être que notre attachement à l'argent, à faire des gros gestes, là, un bon chèque, pas juste de 10 piastres, pour investir, un gros geste avec notre temps, avec notre vie, nos projets de retraite. Et qu'on se dit, c'est trop difficile pour moi, je suis trop attaché à l'argent. Qu'est-ce qu'on dit pour ça? Je pense que c'est normal. C'est sûr. C'est sûr que c'est trop difficile pour toi et pour moi. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur. Il faut le dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne suis pas capable. Je te donne ma vie avec tous mes problèmes, avec toutes mes chaînes. Toi, tu es capable de les briser. La vie chrétienne, c'est celle que Jésus va vivre en nous. Et lui n'a pas de problème à se détacher de l'argent. Il est capable de nous délivrer. Car j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Galates 2:20 qu'on lit ça. Et là, la question, c'est ça. As-tu donné ta vie au Seigneur? On aura tous à rendre compte de notre administration. Tu ne pourras plus administrer mes biens. Qu'on va se dire ça. Il y aura un jour du jugement. Puis là, il n'y aura plus aucune défense, aucune excuse, aucun argument. Là, de se poser la question, quelle place tiennent les biens matériels pour moi? J'aimerais ça qu'on termine en priant. Recommander aussi la nouvelle année 2021 qui s'en vient au bon soin du Seigneur. De lui remettre notre vie pour qu'il nous délivre des pièges de mammon. Le remercier pour l'année 2020 aussi, de nous avoir gardés. Qu'il nous donne d'être trouvés fidèles en 2021 dans les petites choses. Que sa présence vienne adoucir nos épreuves et puis multiplier nos joies. On va prier. Oui, Seigneur grand Dieu, on a vraiment besoin de toi. On est impuissant face à ces dominations, face à ces chaînes, face à ces tentations. Mais merci, sois glorifié que Dieu est puissant, que Jésus est capable de nous délivrer. Et on te prie d'intervenir, de prendre la place en nous, de prendre l'autorité, de briser les chaînes de nos cœurs face à nos possessions qu'on utilise trop facilement pour nous-mêmes. Donne-nous de courir la course sans être encombrés par toutes sortes de possessions temporaires qui nous préoccupent. Mais de fixer les yeux sur l'auteur de notre foi pour qu'on remporte le prix, la couronne, les récompenses qui te donnent de la gloire. Seigneur, on te confie 2021, cette année qui vient. Encourage-nous. Stimule-nous, Seigneur, à ta suite, à être intelligent, à t'honorer. Donne-nous comme Église aussi de t'aimer, qu'on puisse grandir ensemble et s'encourager les uns les autres. Et on te prie dans le nom de Jésus. Amen.